Bonjour à tous. Vous aimez les guitares rageuses et distordues, les grosses rythmiques, les hurlements qui déchirent les enceintes? Vous adorez les vies dissolues de gens infréquentables? Bref, vous aimez le rock, le hard? Le vrai, celui qui a régné sur cette planète sans souci de la morale. C'était l'époque bénie où on nous épargnait tous les gnangnans. Pas de circuits courts en permanence dans ces années-là, mais plutôt les courts-circuits quand on branchait les guitares électriques. Et rendez-vous compte, on pouvait même brûler du pétrole sur des énormes Harley-Davidson, avec sur le siège passager des nanas qui ne pensaient pas encore à vous faire un procès parce qu'on appréciait leur silhouette. Des années d'or, donc. 1968-1983, les 15 glorieuses du rock. Ne zappez pas, vous êtes bien sur 15 on the Rocks. Alors, quelques dates phares pour cette période de liberté absolue. Une première moitié avec des géants du hard qui émergent. Black Sabbath, à partir de Paranoid, leur album de 70 que je vous ai passé le mois dernier. 4 disques en 4 ans, des modèles du genre pour les sulfureux britanniques. Led Zepp aussi, qui après avoir lancé le hard en 68, n'hésite plus désormais à faire de plus en plus de digressions vers le folk, et qui est suivi par le public sur cette mode moins hard, notamment avec le succès un peu inattendu de Stairway to Heaven. Et puis dans ce début des 70s, Deep Purple bien sûr, qui publie Firefall en 71, suivi de Machine Head l'année suivante, dont tous les riffs inoubliables trouvent un écho considérable cette même année dans leur tournée triomphale au Japon. Nous reste bien sûr le live Made in Japan, auquel succédera 4 ans plus tard le second gravé sur scène du groupe Made in Europe. Alors une petite virée à Osaka, ça vous dirait, nous sommes en août 72, Deep Purple avec un 5 majeur au mieux de sa forme, de sa créativité, il y a Blackmore à la guitare, Glover à la basse, l'orgue est tenu par Lord, Pace est à la batterie, ils accompagnent les vocalistes de Gillian. C'est Highway Star qui ouvre leur concert cet été-là, au pays du soleil levant. Dans cette même moitié de la décennie 70, apparaît le glam rock. Le son s'éloigne beaucoup, et trop à mon avis, du hard rock. Les fondateurs du glam accentuent l'importance de l'image sur la musique elle-même. On est souvent dans le complètement théâtral, avec en figure de proue outre-Atlantique, Alice Cooper. Cooper accompagne ses concerts sur scène, qui ne visent qu'à choquer, avec des mises à mort de reptiles ou de rats, et des déversements et des giclées de faux sang. Mais pour Alice Cooper, pour lui au moins, les vinyles sont intéressants et apportent une grandiloquence novatrice. C'est ce qu'on appelle le shock rock. Il est né en 71 avec l'album Killer d'Alice Cooper. Un travail sonore léché et sur une structure hard assez classique. Alors on écoute le morceau d'intro du disque intitulé Under My Wheels. Il envahit les ondes cet été-là de 71, Alice Cooper, qui, je le rappelle, avait été lancé par Frank Zappa. The telephone is ringing. You got me on the run. I'm driving in my car now. Anticipating fun. I'm driving right up to you, babe. I guess that you couldn't see. Yeah, yeah. But you were under my wheel. Autre figure du glam rock, côté Angleterre ce coup-ci, c'est Mark Bolan et son groupe T-Rex. Formé à la fin des 60s sur un répertoire plutôt folk expérimental et psychédélique, T-Rex, sous l'influence du producteur Tony Visconti, qui est aussi celui de David Bowie et qui deviendra celui de Thin Lizzy un peu plus tard, T-Rex durcit un petit peu son son. Il se projette alors en tête des ventes au Royaume-Uni avec des titres qui sont restés comme Ride a White Swan, Hot Love ou encore Get It On. Et ils connaissent un succès assez impressionnant avec un titre qui va rester dans l'histoire, c'est Metal Guru. Avec T-Rex, donc, le glam rock a pris un essor en Europe, à vous de juger. Je reste quant à moi un peu sceptique, mais on écoute quand même Metal Guru de l'album éponyme qui est paru en mai 72 et qui deviendra même numéro 1 dans les charts anglais. Yeah. Alors juste pour mémoire, Marc Bolland, qu'on vient d'entendre, leader de T-Rex, est disparu en septembre 77 dans un accident de voiture à Londres. 77, c'est aussi l'année de l'arrivée dans les bacs d'un album phare de la décennie. C'est le disque Bad Reputation de Thin Lizzy. Au cours des années précédentes, après l'émergence du hard et du glam, il y a eu une autre période bien marquée dans l'histoire du rock. Celle que l'on a appelée l'Arena Rock, Arena pour les grands stades, et dont son corollaire, le rock FM. Avec notamment Aerosmith et Kiss, pour qui le succès est tellement immense que les stades sont même pas assez grands pour les concerts. Alors le rock devient plus grand public, et pour des raisons commerciales, il se calibre pour passer de plus en plus à la radio. Les Anglais commencent, et ça les vexe, à se sentir un petit peu dépassés par le succès populaire de ces Américains, mais aussi des Australiens d'AC/DC. Alors deux groupes vont sonner la révolte. Outre Queen, qui est dans un autre registre, celui de l'opéra rock, pensez à Bohemian Rhapsody entre autres, il y a Bad Company et puis il y a Thin Lizzy, qui reprennent le flambeau du hard groovy. Alors on est en 77 donc. L'un des deux guitaristes de Thin Lizzy, le virtuose Brian Robertson, se blesse à la main dans une rixe dont il est coutumier. Le leader bassiste Phil Lynott a déjà écrit, il les a en réserve, une dizaine de nouveaux thèmes à ce moment-là. Et il refuse de différer son entrée en studio du groupe pour attendre la convalescence de Robertson, surtout après leur tournée triomphale aux States en première partie de Queen. Il décide alors d'enregistrer, malgré son absence, en confiant toutes les parties de guitare à son second soliste, Scott Gorham. L'album Bad Reputation est, de fait, un disque très différent des précédents, sous la direction de Tony Visconti. Il est beaucoup plus mélodique, il est gorgé de refrains et d'harmonies impeccables. Une réussite magnifique à mi-chemin entre un vrai power rock et des ballades hypnotiques, le tout rehaussé par la voix chaude de Lynott. Le succès est fracassant et déclenche immédiatement la tournée Bad Reputation Tour, immortalisée par le live indispensable paru en 78, Live and Dangerous. Extrait de cette perle, 1977, c'est Thin Lizzy, le titre éponyme de l'album Bad Reputation, avec la guitare du Californien Scott Gorham. Yeah. Je citais précédemment Bad Company parmi les groupes anglais qui ont fomenté la réaction européenne pour contrer le succès immense des rockers américains. À sa tête, un chanteur charismatique qui avait fait ses premières armes avec un groupe qui restait un petit peu, Black Cat Bones, à la fin des années 60, puis surtout avec Free, beaucoup plus célèbre. C'est évidemment Paul Rodgers. Alors pour Bad Company, il y a deux albums qui se distinguent dans ces années du milieu des années 70. D'abord, en janvier 76, Run With The Pack, où Rodgers, outre le chant, prend un rôle de plus en plus important dans la composition. Le succès est assez retentissant, il grimpe à la quatrième place des charts anglais et il se classe numéro 5 outre-Atlantique. Puis en mars 77, c'est l'album Burning Sky, un album enregistré en France dans les excellents studios à l'époque du château d'Hérouville. Alors j'ai choisi pour vous un titre typique du son Bad Company, écrit bien sûr par Rodgers, c'est Heartbeat, Bad Company, l'un des fleurons du rock anglais. Et désormais, grâce à cet album adulé aux États-Unis, ces deux vinyles sont excellents, je vous les recommande. On retrouve ce très bon groupe, Bad Company, pour Heartbeat. Présent notre séance slow rock avec les Écossais de Nazareth. À l'origine, depuis 68, ce groupe, comme beaucoup d'autres, est sous l'influence un peu inhibante de Led Zepp et de Deep Purple. Mais Nazareth sont aussi fascinés par le folk américain, comme en témoignent de nombreuses reprises de titres de Bob Dylan ou encore de Joni Mitchell. Ça devient un credo pour Nazareth. Il s'agit pour eux de réaliser une fusion américano-britannique. À mon avis, leur chef-d'œuvre sort en 75. C'est un sommet de mélange de art transatlantique et européen, un vrai pont entre, allez, disons, Black Sabbath et Aerosmith. C'est le célèbre Hair of the Dog. Et dans cette pépite, il y a une ballade à l'américaine, Love Hurts, qui devient un single international et même un succès planétaire. Alors, c'est marrant parce qu'à l'origine, c'est un titre enregistré très tôt dans l'histoire du rock, dès 1960 par les Everly Brothers, que vous connaissez forcément. Et ce succès avait connu à l'époque jusqu'à 30 versions entre 60 et les Everly Brothers et Nazareth. Pour l'anecdote, c'est la version de Love Hurts chantée par Nazareth et son chanteur donc Mac Cafferty que Axl Rose, le leader de Guns N' Roses, fera interpréter pour son mariage. Et une autre petite anecdote sur Nazareth, et pour terminer sur ce groupe, c'est aussi la bande préférée du chanteur d'AC/DC, Brian Johnson, qui en parle encore dans les interviews qu'il donne tout récemment. On fait un petit retour en 75, donc, pour notre séquence Slow Rock, Nazareth avec Love Hurts. On va faire à présent une virée du côté du rock sudiste. Après Lynyrd Skynyrd et Point Blank, j'ai choisi le trio texan le plus célèbre dans ce style. Vous avez deviné, il s'agit bien sûr de ZZ Top, le trio encore en activité qui, à ma connaissance, a la plus grande longévité dans sa composition originale. En effet, depuis la sortie de leur premier LP en 71, les Texans de Houston sont demeurés dans la formation des débuts. Billy Gibbons à la guitare, Dusty Hill à la basse et Frank Beard au percu. La légende veut que ce soit Hendrix qui ait offert à Gibbons sa première Fender Stratocaster en 1969 pour sceller leur amitié qui s'était créée durant une tournée dans laquelle le barbu jouait avec son ancien groupe à l'époque The Moving Sidewalks. Et c'est notre séquence hymne, séquence dans laquelle on évoque les morceaux cultes des 15 années de 15 on the Rocks. C'est avec un extrait de leur troisième 33 tours, Tres Hombres. La Grange, le titre du morceau, est d'ailleurs signé par les trois musiciens. Alors le titre sort en 45 tours et c'est l'un des tubes légendaires des rustiques barbus. Alors mesdames, bouchez-vous les oreilles. La Grange, c'est un bordel. Une maison, comme on disait à l'époque, une maison historique et même institutionnelle, puisque ouverte par la municipalité de La Grange, une petite ville du Texas paumée entre Austin et Houston. Des paroles vraiment très incorrectes aujourd'hui dans notre sombre période d'autocensure et de pruderie morale. Nostalgie donc des années 70, avec des paroles à l'époque assumées par la crème du rock sudiste. ZZ Top rencontrait à La Grange des dames de petite vertu. Toute une époque.
Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile long. Range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Be a mistake.
Je ne peux évoquer la période des 15 ans de 15 on the Rocks sans parler un minimum du mouvement punk. Si la période phare de cette culture est pour la musique les années 76-80 essentiellement, incarnée surtout par les Sex Pistols, les Clash, les Damned ou encore The Saints, les racines sont à chercher beaucoup plus tôt dans le son des groupes de rock garage des 60s comme l'étaient à l'époque les Sonids ou encore les Seeds. Mais aussi du côté de Détroit, à la fin de cette décennie des années 60, chez les Stooges bien sûr, mais surtout pour moi chez MC5. Alors pour MC5, on pourrait parler de rock proto-punk. La recette, ce sont des riffs simplistes mais efficaces, des morceaux très courts, carrés, inspirés du blues urbain, des guitares féroces, déchaînées, qui déclinent des tonnes d'éruptions violentes. Alors c'est bien sûr sur scène que ce hard pré-punk est le plus efficace. Écoutez cet enregistrement live de MC5, capté en octobre 68. C'est une vraie prophétie de ce que sera l'épopée punk. Je vous fais grâce du trop connu Kick Out the Jams et je vous propose plutôt un titre un peu moins célèbre, Borderline. Pour 68, inclassable ce morceau. Très nouveau, voire même sacrilège. Et pour la petite histoire, tiens, le guitariste de MC5 est Fred Smith. Il va épouser une future star de la scène US qui s'appelle Patty quelque chose, mais qui deviendra Madame Fred Smith, c'est-à-dire Patty Smith. Allez, on écoute les MC5 en live, un concert capté en 68, le titre Borderline. On enjambe à présent toute la période punk et on va aller aux limites des 15 ans de 15 on the Rocks pour évoquer le post-punk à l'extrême fin des années 70 et au début des années 80. L'un des meilleurs groupes de la scène post-punk british et qui reste rock cependant, ce sont les Only Ones. Pour les plus anciens d'entre vous, ils avaient fait une tournée en France, on les avait vus à Paris en 79. Ils ont un leader charismatique qui n'est autre que Peter Perrett, très célèbre songwriter vraiment inspiré, qui a signé des titres d'une beauté qui a résisté au temps. Sur scène, ils étaient inégalables, notamment sur des titres comme Peter and the Pets ou encore Another Girl, Another Planet, peut-être le plus beau morceau de la scène post-punk jamais enregistré. Découvrez, si vous ne les connaissez pas, les Only Ones. Alors c'est déjà le temps de nous quitter. Quelques dernières infos avant de conclure ce troisième opus de 15. Je signale aux fans la sortie le 13 novembre de Power Up, le nouvel album des septuagénaires d'ACDC. Après le décès de Malcolm Young, qui tenait la guitare rythmique, c'est le neveu d'Angus Young, Stevie, qui a repris le flambeau. Un disque disponible chez Sony et tout à fait dans la veine des meilleurs opus des sataniques australiens. Et on conclut avec notre rubrique des pépites oubliées. Alors je suis quasiment sûr que vous ne connaissez pas le groupe Brit du nom de Barnabus, pourtant un groupe phare des années 70-73 dans la région anglaise des Midlands. Et pour cause. Le quatuor qui excellait dans le hard aux influences psychées et notamment sur scène avait enregistré en 71 un LP intitulé Beginning to Unwind qui n'était finalement pas sorti. Bon, ils n'avaient pas eu de chance. Et ce, malgré leur très grand succès sur toutes les scènes du Royaume-Uni. Et ce, surtout, malgré le fait qu'ils avaient gagné en 72, et ça c'est resté dans l'histoire, le concours du meilleur groupe régional de Arn, un concours organisé par le célèbre journal anglais de l'époque Melody Maker, et dont les présidents du jury étaient Ozzy Osbourne, chanteur de Black Sabbath, et Tony Iommi, le lead guitar. Alors depuis 2016, cette injustice est réparée, le disque est enfin sorti, il est excellent. On écoute Apocalypse, l'extrait de Beginning to Upwind avec Barnabus en 71. Imaginez-vous disponible 45 ans après son enregistrement, c'est ça aussi la magie du hard, je vous le dis. On se quitte avec ce riff lourd et greasy. C'était François au micro, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour d'autres guitares saturées et basses entêtantes. Et d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, rock and roll will never die.